voix nue. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Alain Prochian. Ce soir, faire entendre la musique de la science.
Bonsoir Alain Prochian.
Bonsoir.
Notre semaine d'entretien s'achève ce soir. Nous avons parlé tout au long de la semaine de votre parcours scientifique, de vos découvertes, de vos recherches, de vos interrogations, qu'elles soient humaines, philosophiques, scientifiques. On s'est quitté hier soir en parlant du plaisir, le plaisir de la découverte, le plaisir de la recherche et le plaisir de la transmission. Vous êtes professeur au Collège de France depuis 2007. J'aimerais comprendre un petit peu ce que cet enseignement que vous avez dispensé et cette transmission que vous avez pratiquée au Collège de France vous a apporté et qu'est-ce que vous avez cherché par cette transmission-là ?
Oui, parce que les cours du Collège de France, on en parlait hier, c'est important parce que ça vous oblige à aller voir un petit peu à côté. C'est-à-dire que comme il faut changer les cours tous les ans, ça vous permet de mettre au programme du cours un domaine auquel vous savez que vous devez vous intéresser, mais auquel vous ne prendriez pas le temps de vous intéresser si vous ne créiez pas cette obligation de l'enseigner. Et par exemple, je me suis mis intéressé aux éléments mobiles dans le génome à un moment, et donc, mais j'avais pas le temps de le lire. C'est une littérature compliquée, et donc je me suis mis au programme. Et du coup, j'ai dû lire toute la littérature sur ces éléments mobiles du génome, Barbara McClintock, et puis ensuite tout ce qui s'est fait dans les toutes dernières années. Mais c'était pas mon domaine, donc c'est énormément de travail. Donc en plus, il faut le restituer, parce que c'est une chose de le lire. C'est une chose de l'assimiler suffisamment bien pour pouvoir le restituer de façon aussi simple que possible. Enfin, pas trop simple. Hein. Donc, oui, ça m'a fait du coup progresser, parce que ça m'a obligé, si vous voulez, à prendre le temps de ce que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas mis au programme. Alors ça, c'est une chose importante. Et l'autre chose, c'est le restituer sans amoindrir l'importance, ni la force, ni le contenu technologique, parce que, vous pouvez aller voir sur les sites, les cours que j'ai pu donner au collège sont assez compliqués. Hein,
vous êtes titulaire de la chaire processus morphogénétique.
Même très technique, et en même temps de faire entendre au public la musique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand je donnais mes cours, puisque je n'en donne plus à partir de cette année, je regardais les 200, 300 personnes qui sont là, je voyais les 20 ou 30 qui pouvaient vraiment comprendre tout, ou presque, parce que même moi, quand je fais un cours, je comprends pas tout ce que je raconte. Hein, faut pas se raconter d'histoire, c'est vrai. On est parfois à la limite de ce qu'on comprend soi-même quand on est obligé de prendre des thèmes qui sont pas les siens quotidiens. Mais je voyais leur intérêt pour la compréhension générale du sujet. Ils entendaient la musique de la chose, vous voyez. Et ça, c'est important de faire entendre la musique de la science, parce que c'est là que quelqu'un qui n'est pas spécialiste peut prendre du plaisir scientifique et avoir l'idée d'aller chercher par lui-même après, parce que ce ne sont pas des gens paresseux. Vous voyez, on dit, oh oui, c'est des gens assez âgés, tout ce qu'on veut. Je pense qu'il ne faut avoir aucun mépris pour les gens à qui on enseigne. Parce que ce sont des gens courageux, ils ont du temps pour travailler, ils vont aller chercher, etc. Et par ailleurs, l'enseignement au Collège de France, c'est un enseignement numérique. C'est-à-dire que vous avez plusieurs millions d'auditeurs que vous ne connaissez pas. Hein, qui sont derrière vous. Il faut pas trop y penser, parce que ça fout les boules, quoi. Mais c'est un sport très intéressant que cet enseignement. Et je vais vous dire, c'est ce qui va me manquer. Parce que je vais continuer à travailler en laboratoire, mais ne plus avoir à faire cet enseignement tous les ans, cette contrainte hein, qui me bouffait l'été. Puis la recherche continue pendant l'été aussi, mais qui vraiment me mettait une contrainte incroyable sur mon emploi du temps. Je crois que ça va être la chose qui va me manquer parce que je sais que ça va faire baisser le niveau.
Vous parliez du fait qu'il ne fallait en rien rogner sur la qualité technique et la précision technique de cet enseignement. Personnellement, moi, je me dis, le Collège de France, c'est pas pour moi. Est-ce que je me trompe quand, moi qui viens d'une formation plutôt littéraire, qui m'intéresse de près aux sciences, mais qui n'est pas forcément le bagage technique, est-ce que je me dis, j'arriverai pas à suivre. Est-ce que ça, c'est une vraie erreur et une erreur contre laquelle il faut lutter?
D'abord, il y a des lettres aussi au Collège de France. Bien sûr. La moitié des professeurs sont dans les humanités, comme on dit. Donc, c'est aussi une place pour les gens qui s'intéressent à ça. Mais moi, par exemple, je pouvais écouter des gens dans les humanités. Et c'est complexe, les humanités. C'est pas parce que c'est de la langue naturelle, par exemple, que ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement technique aussi. Donc, faut pas délirer là-dessus. Donc, c'est compliqué d'écouter un cours dans les humanités si on veut vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Hein. Les sciences sociales, c'est pas de la blague. Et donc, je pense que oui, vous avez tort, parce que le Collège de France est justement fait pour des gens comme vous, qui sont pas des spécialistes du domaine. Mais, alors, évidemment, si vous allez écouter un cours de Claire Voisin, ou de Pierre-Louis Lyons, ou d'Alain Cohn, des mathématiciens, ça peut être compliqué. Mais si vous allez écouter, je pense, n'importe quel autre cours, et peut-être même, d'ailleurs, ces cours-là, je sais pas, j'ai pas assisté à leurs cours, peut-être qu'ils font un grand travail, justement, pour faire entendre la musique des mathématiques. Mais, si vous allez écouter, les cours de physique, de biologie, ou de chimie, je pense qu'il n'y a aucun problème. On ne comprend pas tout, mais on ne comprend jamais tout. Quand vous lisez « La recherche du temps perdu » pour revenir à notre ami Proust, vous croyez qu'on comprenait tout ? Vous le relisez une deuxième fois, vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues la première. Vous le lisez 100 fois, vous avez des choses que vous n'avez jamais vues. À chaque fois, c'est nouveau. Donc, on ne comprend jamais tout. Mais c'est ça qui est beau. Donc, vous ne comprendrez pas tout, mais ça peut semer une graine et un jour, ça peut vous aider à comprendre d'autres choses.
Le Collège de France, c'est le fil rouge un petit peu de votre carrière. Vous avez intégré un laboratoire après votre doctorat qui était au Collège de France. Vous avez suivi finalement...
Mon doctorat n'était pas au Collège de France.
Non, après, en post-doctorat. Vous avez été même administrateur du Collège de France. Votre mandat s'achève aujourd'hui. Avant d'arriver à ce dernier poste que vous avez eu au Collège de France, j'aimerais comprendre un petit peu ce qu'au cours de votre parcours scientifique, vous avez trouvé au Collège de France dans ce lieu où l'interdisciplinarité à une place première.
Oui. Bon, le Collège de France, c'est un fantasme, hein, faut le dire. C'est-à-dire pour un intellectuel, être professeur au Collège de France, c'est une sorte de fantasme. Alors, est-ce que la réalité correspond au fantasme ? Ça, je ne vais pas vous le dire, parce que ce n'est pas à moi de le dire. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, et donc j'ai fait quelques années au Collège de France avant d'aller à l'École normale supérieure, j'ai rarement sorti du 5e arrondissement, sauf pour traverser l'Atlantique, je dois le reconnaître, mais... Vous aviez des gens comme Barthes, vous aviez des gens comme Foucault, comme Jacob, comme Monod, Pierre-Gilles de Gênes, j'essaie de ne parler que des morts, hein, Boulez. Et donc, c'est sûr que c'est incroyable. Et donc, on ne les fréquente pas forcément quand on est étudiant, hein, on est au post-doc, on est dans le fauteuil, on écoute. Mais quand même, c'est magnifique, voilà. Oui. Tous les gens qui ont ce niveau-là ne sont pas forcément au Collège de France. Il n'y a que 52 professeurs, donc il y en a forcément des meilleurs que nous à l'extérieur. Là, c'est inévitable. Et peut-être qu'à l'intérieur, il y en a qui sont moins bons qu'ils ne le croient. C'est vrai aussi, ça c'est la vie. Donc, on peut pas faire autrement. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est un endroit où vous avez la chance d'être, quand vous êtes maintenant professeur, d'être assis à côté de quelqu'un qui est un extraordinaire dans son domaine et même de pouvoir lier des liens d'amitié. Oui, vous parliez d'interdisciplinarité. Moi, c'est pas un terme que j'aime beaucoup. Vous voyez, un physicien, un chimiste, un machin, ça fait de l'interdisciplinaire. Il y a cette idée que, à la frontière entre les disciplines, on va trouver des choses nouvelles. C'est possible. Mais je reste convaincu qu'on peut utiliser des sciences autres au profit de sa propre science, mais pas à l'interface entre deux sciences. Vous voyez, sinon, c'est la solidarité des poireaux dans un champ, quoi. Mais en revanche, il peut se créer des interactions amicales suffisamment fortes pour donner lieu, justement, à des interactions scientifiques. Chaque fois que j'ai travaillé avec des chimistes, avec des physiciens, avec des mathématiciens, ce que j'ai fait, bien entendu, il y a toujours eu de l'affect qui est passé, qui a rendu la chose possible. Et donc, oui, c'est vrai, c'est un milieu où on peut avoir une conversation continue avec des gens de disciplines qui ne sont pas du tout les vôtres. Et puis ça vous ouvre aussi à des choses nouvelles. Quand je discute avec Thomas Romer, à la chaire des milieux bibliques, vous imaginez que c'est quand même loin de mes préoccupations. Il reste que, l'invention du monothéisme, c'est intéressant. C'est formidable, oui. J'aime beaucoup le Collège de France.
Au tout début de notre entretien, lundi, on a parlé de votre scolarité, entre guillemets, à l'École normale supérieure, du fait que vous avez démissionné, que vous n'avez pas passé l'agrégation parce que vous n'aviez pas envie d'enseigner au petit collège, au collège avec un petit C. Pourquoi est-ce que, finalement, l'enseignement...
Non, c'était pas pour ça que j'ai démissionné. D'abord, j'ai fait les 3 ans, hein, donc j'ai fait tout mon cursus. Mais les gens faisaient 3, 4, 5, etc., pour se donner le temps de passer l'agrégation. J'avais pas envie de retapiriser, comme on dit. Ça allait, quoi. Je veux dire, j'avais fait ça suffisamment. J'avais envie de rentrer dans le monde réel. Donc,
marre de préparer les concours.
Voilà. Ça allait. C'est une corvée, quand même. Hein. Puis c'est pas très, ça rend pas intelligent. Faut quand même le voir. Donc, j'avais envie de faire du concret, c'est tout. Donc, je suis parti, je l'ai fait, oui.
Et l'enseignement
au collège, je méprise pas du tout, mais j'avais pas envie de faire de l'enseignement tout court. Je n'avais pas envie d'être prof de fac, parce que j'avais pas envie de faire du programme. Ce qu'il y a de très très beau au Collège de France, c'est que c'est pas de l'enseignement, c'est de la recherche. C'est-à-dire que tous les ans, vous devez changer de programme. Ce qui se passe dans les collèges ou les universités, ça, c'est que vous gardez le même cours et vous changez les étudiants. Nous, on garde les mêmes étudiants et on change le cours. C'est différent. C'est une autre pression. Alors, j'ai une grande admiration pour les professeurs, parce que je crois que, justement, c'est un petit peu dommage qu'ils ne soient pas plus considérés. Je trouve ça même scandaleux, parce que c'est un travail extraordinaire que d'enseigner. Mais moi, j'avais pas envie d'enseigner sur un programme, et puis j'avais mis la recherche en haut de mes priorités. Et en France, la recherche et l'enseignement sont parfois un peu disjoints, et moins maintenant, mais à l'époque, ils l'étaient beaucoup. Donc, j'ai la chance d'être d'une génération où on vous disait, vous voulez être prof ou vous voulez être au CNRS? Oui, alors maintenant, il faut se bagarrer pour les deux. Mais j'ai dit oui, le CNRS, comme ça, j'aurai plus de temps pour la recherche. J'ai peut-être eu tort, hein, je dis pas. Mais je regrette pas, ça ne sert à rien de regretter. Et je suis content d'avoir pu être élu au collège, parce que ça m'a permis de faire de l'enseignement d'une autre façon. Peut-être tort surtout, je n'en sais rien, mais bon, j'ai fait de mon pire.
L'aboutissement de ce parcours au Collège de France, c'est la fonction d'administrateur du Collège de France, fonction que vous avez remplie de 2015 à 2019, à ce mois de septembre 2019. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau à ce poste-là d'administrateur du Collège de France?
D'abord, je suis président du conseil d'administration, je l'étais en tout cas jusqu'à hier ou avant-hier. Et donc, j'ai aussi on m'appelle l'administrateur du Collège de France. Les gens du Collège de France m'appellent le ministrateur. Mais d'abord, je n'ai pas voulu abandonner la recherche et l'enseignement pendant que je faisais cette fonction. Donc j'ai continué à diriger mon laboratoire et j'ai continué à faire mes cours. Et donc j'ai rajouté ça. Et c'est important, je pense, j'en fais pas une règle pour tout le monde, mais pour moi c'était important de rester connecté à ce pourquoi j'avais été élu au Collège de France. D'accord ? Ce que j'ai appris, c'est pas grand-chose. Disons que... non, parce que j'avais déjà dirigé des grosses structures. Donc j'avais l'habitude, si vous voulez, de déléguer. Dès que j'ai confiance, je délègue immédiatement. Et ça, c'est bien. Il se trouve que j'avais une administration extraordinaire. Bon, évidemment, l'administration, il y a toujours des bugs. Hein, qui n'a pas de bugs dans ce qu'il fait? Et on se plaint toujours des bugs. Mais en France, on est sous-administré, en vérité. En vérité, les chercheurs sont sous-administrés, c'est-à-dire qu'ils font des tâches d'administration qu'ils n'auraient pas à faire. Il se trouve qu'au Collège de France, on a une administration qui nous permet d'avoir une administration qui fait son boulot, et nous, on fait le nôtre. Donc mon rôle, c'était plutôt un rôle, je dirais, de stratège, un rôle politique. Défendre la recherche auprès du gouvernement, engager le Collège de France sur une politique d'avoir des chaires internationales, ouvrir vers le monde artistique. Il y a eu plein de grandes conférences. On a fait venir Franck Guéry, Anish Kapoor, Vargas Llosa, Villa Matas, enfin, l'Opéra de Paris. J'ai essayé, si vous voulez, d'ouvrir le Collège de France plus qu'il ne l'était. C'est une maison très ouverte, mais évidemment dans le sens des goûts qui étaient les miens. Hein, je suis un peu égoïste. Hein. J'ai voulu me faire plaisir, comme je disais hier. Mais j'espère que j'ai aussi donné du plaisir aux autres. Mais oui, je pense avoir administré, comme on dit, le Collège de France, dans le sens d'une grande ouverture, et aussi de façon plus politique et stratégique qu'administrative. Voilà, c'est pas du tout mon genre d'aller corriger les virgules dans les tableaux Excel, ça m'intéresse pas.
Alain Prochain, vous l'évoquiez à l'instant, le rôle politique d'une institution comme le Collège de France, est-ce qu'il est majeur, et est-ce que vous avez l'impression qu'une institution telle a un poids politique important?
Elle a un poids politique si les politiques veulent bien l'entendre. Ils devraient. Je pense que le sort qui est fait à la recherche publique en France est simplement une honte. C'est une honte. Pour très peu d'argent. C'est-à-dire que en 2002, à Lisbonne, nous investissions 2,2% du PIB en recherche et développement en France et en Allemagne. On s'est donné le but de mettre 3%. Les Allemands ont dépassé 3% et nous, on est toujours à 2,2%. C'est-à-dire que tous les ans, l'Allemagne nous met 40 milliards d'euros dans la vue en recherche et développement. Du côté développement, c'est l'affaire des industriels qui n'investissent pas assez, hein, je pense, en dépit des incitations, en particulier du crédit d'impôt recherche. Mais en recherche publique, il nous manque 4 milliards par an. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on ne pourra pas tenir longtemps comme ça. Et à terme, c'est un problème à la fois la place symbolique de la France dans le monde, ce qu'avait bien compris le général de Gaulle, mais ceci un problème économique, parce que, vous savez, la compétitivité, c'est pas uniquement le coût du travail, c'est aussi le contenu technologique de l'offre. Le contenu technologique de l'offre, il est le résultat de l'investissement en recherche et développement. Et c'est pas des grosses sommes, c'est ça qui est exaspérant, si vous voulez. Le budget total du CNRS, salaire compris, hein, je dis bien salaire compris, c'est entre 2,5 et 3 milliards d'euros. Faut quand même pas exagérer. Une nation comme la nôtre peut se l'offrir. Voilà. Et donc, le collège peut porter ce discours. D'ailleurs, je l'ai fait énormément. Je n'ai pas été entendu par Mme Fioraso, qui a baissé les crédits de l'Agence nationale pour la recherche de façon absolument scandaleuse. J'ai pas peur de le dire. Mais j'étais plus entendu par les suivants, par M. Mandon et par Mme Vidal, oui. Même si, au niveau de Bercy ou du Premier ministre ou même du Président, ils n'entendent pas toujours comme ils le devraient. Je pense qu'ils font une grave erreur. Voilà.
Alain Prochain, est-ce que selon vous, il y a une inculture scientifique du côté des politiques en France qui justifierait ce manque d'intérêt ou en tout cas ce manque d'investissement?
Ouais, c'est une inculture scientifique, c'est-à-dire que la formation de nos dirigeants, c'est plutôt du côté des grandes écoles et de l'ENA. Hein. Mais j'ai rien contre l'ENA. Je déteste le discours populiste, vous l'avez bien compris. Je pense que les ENA sont des très grands administrateurs, sont des gens qui ont une très grande technicité. Donc, mais il faut des politiques qui disent ce qu'il faut faire. Hein. Ma directrice générale des services, mon administration au Collège de France, c'était une énarque. Mais elle attendait de moi un discours politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que les politiques sont assez acculturés sur le plan scientifique. Et puis, ils sont aussi très influencés par le milieu social dans lequel ils vivent. C'est-à-dire qu'ils fréquentent plus facilement des capitaines d'industrie que des grands chercheurs scientifiques. Et je pense qu'ils auraient intérêt à élargir leur palette.
Vous avez mené d'autres combats au Collège de France, autre que la défense de la recherche française, c'est la défense des chercheurs, d'où qu'ils viennent, avec un programme qui s'appelle le programme PAUSE, pour accueillir des chercheurs qui viennent de pays en guerre ou de pays...
Oui, oui, voilà. Ça, c'est une des choses dont je suis le plus content. Je ne sais pas ce que ça deviendra, mais en 2016, qui était donc le premier colloque qui suivait ma nomination en 2015 comme administrateur, nous étions à quelques encablures d'une élection présidentielle dont on pouvait craindre que l'extrême droite fasse ses choux blancs, hein. Plutôt ses choux verts. Et c'était inquiétant quand même tout ce discours sur l'immigration, enfin une espèce de faut bien le dire, hein, c'est du racisme, hein, voilà. Et donc j'ai décidé de faire un grand colloque de rentrée. On a tous les ans un grand colloque de rentrée au Collège de France sur la question de l'immigration, hospitalité, immigration, etc. Et à cette occasion, j'ai rencontré justement, j'aime beaucoup M. Mandon pour ça. Il m'a dit, on voudrait monter un programme d'accueil des scientifiques. Est-ce que vous voudriez vous en occuper? Et donc, à la suite de ce grand colloque, où on a fait venir des... C'était très intéressant, il y avait le maire de Palerme, par exemple, qui était là, c'était un truc formidable. Bien, j'ai dit oui à Thierry Mandon, et nous avons monté ce programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil, qui est installé, pour l'instant, au Collège de France. Et ça a été un moment important pour moi, parce qu'on a quand même, pour l'instant, accueilli... environ 160 académiques et leurs familles, avec les universités, hein, c'est-à-dire que, je vais vous dire comment ça fonctionne, vous pourrez aller voir sur le site du Collège de France, il y a le site du programme PAUSE, mais je crois que c'était une action vraiment, vraiment, vraiment importante. On a accueilli énormément de Turcs, de Syriens, de Yéménites, de gens d'Amérique latine. Oui, je suis content d'avoir fait ça, ouais.
Est-ce que ce programme PAUSE, Alain Prochain, c'est l'illustration que la vie des idées, la culture, les sciences, qui font partie de la culture, sont, d'une certaine façon, le dernier refuge de l'humanité?
Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de dernier refuge. Je pense que l'humanité, c'est un cerveau monstrueux, hein, comme je l'écris souvent, dont il faut gérer la monstruosité. Et donc, elle va dans tous les sens, la monstruosité. Et donc il faut utiliser son cerveau. C'est là que vous me demandiez le premier soir, est-ce que vous êtes de gauche ou de droite?
Je ne vous ai pas demandé ça.
Si, de toute façon, ce sont des dichotomies qui, je pense, existent toujours, mais il faut le gérer de telle sorte qu'on soit à peu près en accord avec soi-même, quoi. Mmh. À peu près, hein, parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, hein. C'est pas toujours facile de se regarder le matin dans la glace, à vrai dire, parce que on fait des choses des fois qui sont pas très sympas, et on le sait bien, et pas très propres, et on le sait bien, mais il faut quand même, je crois que justement ce programme Pause, pour moi, c'était un moment où je me suis senti bien, voilà.
Est-ce que ce programme qui replace finalement les humains au centre de plein d'interrogations, c'est aussi d'une certaine façon une autre forme de rappeler que voilà, l'humain n'est pas l'animal et que y a une grande attention à porter au fait qu'il ne faut pas confondre.
Oui, je viens d'écrire un livre là-dessus, donc
singe toi-même.
Mais la question, c'est oui, nous sommes des animaux, bien entendu. Donc je crois en l'évolution. C'est même pas je crois, il y a l'évolution. C'est comme ça. Hein, je suis darwinien. Ouais. Et puis bon, l'évolution fait que Sapiens est différent des autres. Voilà, et qu'il a une responsabilité particulière. Vis-à-vis de la nature, entre guillemets, mais de lui aussi. Donc, nous sommes une espèce qui est capable d'envoyer la Terre dans le mur, si j'ose dire, et puis qui est aussi capable de la sauver. Hein. Donc, notre espèce animale est particulière, et je crois qu'il faut prendre conscience que les humains sont des animaux très différents des autres, qu'il y a une frontière, voilà. Les frontières ne bougent pas. Il y a une vraie frontière entre les humains et les animaux. Ça nous donne à la fois énormément de pouvoir, hein, mais aussi une très grosse responsabilité. Et cette responsabilité, on ne peut l'assumer qu'en utilisant justement son cerveau. Pas en disant il n'y a pas de frontière entre l'homme et l'animal. Non, on a un cerveau particulier, il faut l'utiliser et pour assumer cette responsabilité et faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Hein, parce que de toute façon, ça se terminera mal, hein, on en parlait l'autre soir. Mais il faut une solidarité avec les humains. Vous voyez, moi, je ne supporte pas quand on dit les convois qui emmènent les poulets à l'abattoir, c'est la même chose que les trains qui emmènent les juifs à Auschwitz. Je trouve ça simplement insupportable. Il y a une différence, et justement, cette différence, elle tient au tragique. Mmh. C'est que les humains qu'on traite comme ça, ils savent ce qui va leur arriver. Voilà. Et donc, il y a ce sens du tragique qui fait que l'humain, c'est un humain. Et voilà, donc si on était dans la nature complète, eh bien, il y a une guerre entre les espèces. On a gagné, hein, pour qu'on aurait pitié des espèces qu'on perdu. Hein. C'est ça la loi de la jungle. Ben, justement, les sapiens, ils n'ont pas ça. Et si nous établissons, nous nous donnons l'obligation d'avoir des devoirs vis-à-vis des animaux, c'est pas par solidarité animale, c'est parce que nous sommes tellement différents que nous sommes capables de établir des lois qui nous obligent à protéger, dans une certaine mesure, les autres animaux. Parce que si vous allez tout nu dans la jungle, vous allez voir si les animaux dans la jungle respectent les droits de l'homme. À mon avis, vous allez être déçus. Voilà.
Alain Prochant, au tout début de la semaine, lundi soir, je citais une phrase issue de votre leçon inaugurale au Collège de France en 2007. Leçon inaugurale intitulée, je le rappelle, « Géométrie du vivant ». Je vous soumets à nouveau cette phrase, en insistant cette fois sur la fin de la proposition. Dans cette phrase, vous disiez vouloir donner sa place à la rêverie dans la science pour augmenter les chances de trouver une issue. Alors, augmenter les chances de trouver une issue à quoi ?
Ben, une issue probablement aux questions qu'un scientifique se pose quand il est face à un problème aussi compliqué que le vivant. C'est-à-dire, on en a parlé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a deux outils. Hein. Il y a l'outil scientifique, le vrai, hein, auquel il faut toujours se soumettre, en fin de compte, l'expérience. Et puis, si vous continuez à améliorer la bougie, par exemple, si vous continuez dans le sillon, alors vous allez forcément améliorer le système. C'est-à-dire que vous aurez des outils plus forts, vous aurez des technologies plus puissantes, et vous allez trouver des choses que la technologie va vous apporter. Mais justement, il y a un moment où vous allez faire, vous allez trouver devant un obstacle. Il y a plein d'obstacles en science. Donc, je pense que la rêverie, c'est peut-être une façon, enfin la rêverie au sens où on en a discuté pendant ces 5 soirées. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est l'imagination en fait. Et je pense qu'elle peut permettre, si vous voulez, de faire un bond en avant qui vous oblige à lâcher la rampe de la pure logique ou de la pure continuité de ce qui est connu dans le domaine dans lequel vous travaillez et donc d'aller imaginer des solutions. hein, d'aller imaginer des théories, faire une théorie, des hypothèses, mais avec un côté où l'imaginaire joue quelque chose d'important, une fonction importante. Voilà. Et puis après, évidemment, après, il faut consolider, parce que ça tient ou ça tient pas. Et ça, c'est l'épreuve de l'expérience, hein, c'est autre chose. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je crois qu'on peut pas, quand on est un scientifique, entièrement, si vous voulez, rester dans ce que nous savons déjà et dans l'amélioration technique. Je crois qu'il y a un geste poétique, justement, qui est fondamental aussi dans l'invention scientifique. C'est très dangereux, il y a une vraie part de risque, et en même temps, je crois que c'est indispensable si on veut faire des progrès, aussi minimes soient-ils, hein, de nouveau, c'est-à-dire, bon, il y a des Darwin, et puis il y a des autres choses, quoi, voilà, hein, des prochains, voilà, donc c'est pas la même chose.
Et maintenant que vous êtes libéré de vos charges au Collège de France, vous allez voir ailleurs, vous allez chercher à inventer ailleurs, vous partez, je crois, en Chine.
Je pars pas en Chine, mais il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un laboratoire au Collège de France qui va. Je me suis beaucoup intéressé depuis une dizaine d'années à l'innovation, parce que on a fait des trouvailles dans mon laboratoire qui peuvent être vraiment appliquées à, entre guillemets, au développement de peut-être de nouvelles voies thérapeutiques pour des maladies assez importantes comme une maladie neurologique ou une maladie psychiatrique. Et donc, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Brain Ever. On en a parlé, je crois, il y a 3 jours. Mm-hmm. Et on vient de décider de faire une équipe mixte entre Brain Ever, Collège de France, CNRS, INSERM, où j'aurai une dizaine de personnes pour continuer à travailler au Collège de France, dans les laboratoires qui me sont donnés, environ 100, 120 mètres carrés, hein, tout petit près, hein, mais qui permet aussi de réfléchir, c'est important. Et en même temps, j'ai été effectivement élu professeur à l'Institut des neurosciences de Shanghai, où je vais monter un petit laboratoire, et j'irai entre 2 et 3 mois par an, et j'aurai une équipe là-bas, je pense, avec quelqu'un avec qui je pourrais correspondre, pour travailler aussi sur le développement et les pathologies du cortex cérébral. Oui. Donc, je n'ai pas l'intention de poser mon sac tout de suite, sauf si je suis obligé pour des raisons de faiblesse intellectuelle. J'espère que quelqu'un me préviendra. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui?
Ben rien. Me souhaiter, non. De vivre et puis de mourir tranquille. Voilà.
Merci beaucoup, Alain Prochain, de nous avoir accueillis tout au long de cette semaine.
Voilà, je vous remercie. Voilà, c'était 5 soirées un petit peu bizarres, mais bon. J'ai essayé de sortir un peu de moi.
La vie ne l'est-elle pas?
Voilà. Merci.
Merci.
Cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Alain Prochian. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Yann Fressy, coordination Sandrine Trainer, attaché de production Daphné Abgral. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.